Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le mardi 19 octobre 2021, il fait beau dans le Beaujolais malgré quelques petits nuages et les températures sont attendues jusqu'à 19 degrés cet après-midi, ça se réchauffe. Au programme de notre rendez-vous quotidien, eh bien, nos chroniqueurs habituels du mardi seront avec nous, le coach en milieu d'émission et Bertrand Lamure, notre libraire, pour terminer l'heure. Mais avant ça, et ben on rencontre notre invitée du jour, jeune artiste peintre caladoise Morgane Lemaire, qui expose à la galerie du passage de l'ancienne mairie à Villefranche jusqu'au 30 octobre. Vernissage prévu vendredi à 18h, mais on peut déjà aller voir son travail, ainsi que celui de Maud Chapuis qui pratique le paper art. On va donc parler de cette exposition, de son travail et de ses œuvres en général. On va aussi pouvoir dire un mot sur l'OCV qui organise cette événement et je crois accompagne bien les artistes autour de Villefranche. Avant de commencer l'émission, un peu de musique avec un titre qui me fait penser aux œuvres de Morgane Lemaire, notre invité. Ça fait voyager, c'est onirique, c'est vivant, délicat. Voici Zoufris Maracas avec Sa Majesté la Mer. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous.
Que j'ai joué à vous sa majesté la mer, aux vagues venues se briser depuis l'autre bout de la terre. J'aurais mille questions à poser, vous qui avez croisé les hivers qui ne sont pas encore arrivés du côté de mon hémisphère. Du côté de mon hémisphère. Prochaine note que je jouerai, à vous sa majesté la mer, aux vagues qui viendront m'enlever le dernier petit goût amer que j'aurai au fond du gosier. Quand j'irai adieu à ma mère, j'aurai mille questions à poser, vous qui avez parlé aux rivières, qui avez roulé tant de rochers, écumé tant de misère. Tant de noyés, des enfants qui fuyaient la guerre, que des salauds avaient armé pour faire fleurir nos petites affaires. J'aurais mille questions à poser, à vous sa majesté la mer, devant autant d'absurdité et au nom du grand univers. Ne pourriez-vous pas pour une fois couler ces yachts de milliardaires plutôt que ces petits radeaux en bois? Ou entasser rêves mes frères, plutôt que ces petits radeaux en bois. Ou entasser rêves mes frères. À vous sa majesté la mer, à ma dernière tasse d'eau salée, à ma dernière bouffée d'air, à la vague qui aura raison de mon envie de résister, et au nom du grand univers, devant autant d'absurdité, je voudrais retrouver la paix, et pour finir me laisser faire, je voudrais retrouver la paix, et pour finir vous laisser faire. Et enfin me laisser aller, à vous ma majesté la mer. Et enfin me laisser couler, sans papier majesté la mer.
Zoufris Maracas avec Sa Majesté la Mer sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Allez, notre invité du jour, c'est Morgane Lemaire. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bien, merci. Et vous ?
Eh bien, très bien. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes artiste peintre. Et aujourd'hui, on va parler de votre travail, de vos œuvres. Vous exposez jusqu'au 30 octobre au passage de l'ancienne mairie à Villefranche. On peut peut-être commencer par parler de votre parcours de peintre, de ce qui a pu inspirer votre travail aujourd'hui. Je crois que vous êtes une grande voyageuse.
Oui, tout à fait. Ben, on a réalisé un tour du monde avec mon conjoint pendant 10 mois. On a traversé 10 pays, de l'Asie du Sud-Est en passant par le Pacifique jusqu'à l'Amérique du Sud. Et on est revenu du coup deux semaines avant le premier confinement avec des souvenirs plein la tête et le besoin de partager ça. Et la photographie et le fait de raconter ce qu'on avait vécu permettaient pas de retranscrire exactement les émotions qu'on avait vécues pendant ce voyage. Et clairement, la peinture pour moi, dans un premier temps, ça a été un support pour exprimer toutes ces émotions-là.
Et je crois que vous avez vécu pendant 2 ans avant à La Réunion, sur une île avec la mer à côté aussi. Est-ce que ça aussi, c'est un peu dans vos peintures, les paysages qu'il peut y avoir là-bas là?
Non, la Réunion, non, pas forcément, mais c'est vrai que le tour du monde, c'est
le tour du monde essentiellement.
C'est vraiment une immersion différente et on l'a fait avec un sac de 15 kilos sur le dos, toutes nos affaires comprises dedans. On a été beaucoup au contact des gens. Et à La Réunion, cet aspect culturel-là, on le retrouve moins, et c'est vraiment ça qui m'a inspirant.
Il y a le voyage qu'on retrouve dans vos peintures, mais le fait de dessiner, de peindre, de l'art pictural en général, ça vient d'où ça ? Parce que vous auriez pu retransmettre vos voyages par la musique, par la sculpture.
C'est un attrait pour les arts plastiques que j'ai depuis toute petite. Je dessine depuis que je suis enfant, très très jeune. Et j'ai mon grand-père qui m'avait fait peindre quand j'étais toute jeune. Là, on faisait des peintures un petit peu amatrices. Et depuis, je n'y avais pas trop retouché. Mais je pense qu'on m'a transmis un peu ce goût-là pour les arts plastiques, le dessin et la peinture. Oui.
Et de votre voyage, vous êtes revenu début 2020, si je ne dis pas de bêtises. Avant ça, vous n'aviez pas peint. Enfin, vous ne peignez pas.
Non, jamais vraiment. C'est en rentrant du voyage, j'ai eu envie d'acheter un chevalet, des pinceaux et des toiles. Et je me suis lancée comme ça chez moi. Je me suis fait un petit atelier de manière complètement autodidacte. Et ça fait plus d'un an maintenant que je fais ça comme ça.
Et à la base, c'était pour quoi ? C'était pour vous ? Une envie, un besoin ?
Alors, j'avais pas du tout. Je l'ai fait initialement de manière très intuitive, sans forcément l'idée ou de le montrer en fait à d'autres personnes. Et puis, à force de peindre et de me plaire là-dedans, j'ai commencé à accumuler les toiles chez moi.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Christine Forgette de l'Office culturel de Villefranche, qui organisait à ce moment-là, pendant le confinement, une exposition dans les commerces en ville d'artistes nouvellement émergents. Et elle permettait donc d'exposer sur les murs que les commerçants prêtaient gracieusement, et c'est comme ça du coup que j'ai fait sortir mes créations de chez moi, et ça a pris petit à petit l'ampleur que ça a aujourd'hui.
Et montrer son travail, ses œuvres à d'autres, quand c'est pas forcément l'objectif, c'est facile ou pas de dévoiler ce qu'on a fait ?
C'est un peu déstabilisant au départ. Et c'est très constructif. A posteriori, je suis contente d'avoir passé ce cap-là, parce qu'on a des retours et ça agrémente toujours le travail qu'on fait. Et moi, le fait que j'ai pas forcément suivi d'enseignement, de choses comme ça, ben c'est l'avis du public en fait qui me procure le retour dont j'ai besoin pour évoluer dans mon travail.
Et vous êtes allé, vous avez évolué dans la démarche à la nuit de l'été, par exemple. Je me souviens vous avoir vu peindre en public. C'est encore une étape au-dessus que d'exposer, c'est montrer sa façon de travailler. Vous y avez pris goût au fait de montrer vos œuvres, j'imagine.
Alors, je l'ai déjà fait 2 fois comme ça, des performances de live painting. C'est C'est stressant, mais c'est un stress qui est stimulant,
ouais.
Parce que ça confronte à plein de difficultés. Il y a la difficulté de soumettre ce qu'on fait directement au regard de l'autre. Il y a toutes les aléas des conditions du direct avec la peinture qui sèche pas forcément de la même manière qu'en atelier.
Ouais.
Toutes ces petites choses-là. Et puis emmener tout ce qu'on a chez toi pour manquer de rien quand on va peindre. Et puis il y a énormément d'échanges avec les gens dans ces cas-là et c'est extrêmement enrichissant, ça.
Ouais. On va parler de vos peintures et de ce que vous mettez dedans. Moi, je suis quand même curieux de savoir comment vous avez appris, parce que quand j'ai vu vos œuvres, je trouve qu'il y a une technique, il y a un savoir-faire. En tant qu'autodidacte, vous êtes inspiré d'autres œuvres, vous avez cherché à essayer de faire pareil et trouver vos propres techniques. Comment vous avez fait ?
Alors, je regarde énormément d'art, j'ai envie de dire, et je pense que mon inspiration vient principalement de là. Je fais énormément de musées et j'aime beaucoup tout ce qui est street art.
Ouais.
Le fait d'avoir de l'art à la portée de tout le monde dans les rues, je trouve ça très chouette. Et donc, c'est forcément inspirant. Je pense qu'il y a des choses que je capte et que je retransmets à ma manière. Mais après, le reste, c'est vraiment du domaine de l'instinctif.
Ouais. Le street art, c'est ça qui vous a amené les espèces de formes géométriques qu'on voit de temps en temps. Ça vient de là plutôt ou
Ça, je l'ai déjà rencontré, ouais, dans la rue, et on le voit aussi souvent dans les tatouages.
Ouais.
Vous voyez, le fait de regarder le tatouage de quelqu'un, ben ça, c'est des choses qui des fois peuvent aussi m'être inspirantes.
Il y a des espèces de constantes dans vos peintures ou de choses qui reviennent régulièrement. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose de vivant, même si ça peut être un grand paysage. Il y a toujours un peu de vie quelque part, un animal, un homme, un personnage. Il y a toujours de la vie dans vos peintures.
Bah, ça fait partie des choses qui me sont très très inspirantes. Ouais, le règne animal, c'est quelque chose qui me touche particulièrement et pour lequel j'ai énormément de respect et de fascination. Et encore une fois, dans le voyage, les choses qui nous ont le plus marquées, c'est les échanges avec les gens aussi. Et
ouais.
C'est peut-être pour ça, ouais, qu'effectivement, ça revient en toile de fond.
Et on voyage. Je ne crois pas avoir vu beaucoup de peintures de villes urbaines. Comme on peut avoir en France, on est souvent dans des paysages oniriques. Il y a du domaine du rêve aussi, de l'immatériel parfois, dans vos peintures. Comment est-ce que vous les concevez avant que la peinture soit terminée? C'est quoi le cheminement que vous avez?
Alors, ça part de souvenirs initialement. J'ai tendance à regarder de nouveau des photos qu'on a prises pour me remettre un petit peu les détails en tête. Et ensuite, je fais des croquis à main levée. Des fois, c'est sur des post-it. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment très succinctes pour fixer mon idée. Et ensuite, une fois devant la toile, je pars avec cette idée-là, avec mon petit croquis. Et je crée un fond. Dans mes séries les plus récentes, là, je crée des fonds qui sont abstraits.
Ouais.
Par touche, et là-dessus, je viens amener un peu de figuratif pour exprimer ce que j'ai envie de montrer.
Il y a de l'instinctif, j'imagine, encore beaucoup. Le tableau doit évoluer au fur et à mesure. Peut-être que vous vous surprenez vous-même des fois.
Oui. Ben, on part des fois avec une idée et on arrive
à toute autre chose.
Oui, dans une direction diamétralement opposée. Mais c'est ça qui est plaisant aussi. Et c'est pour ça que je n'ai pas encore pris l'initiative de prendre des cours. C'est parce que j'arrive encore,
ouais,
à me surprendre et à apprendre de moi-même. Ça aurait une limite à un moment donné, je pense, mais pour l'instant, c'est encore le cas. C'est ça aussi qui est plaisant.
Et si un jour, il y a justement cette limite, là, vous auriez envie de prendre des cours pour apprendre des techniques particulières?
Si je me sens à un moment donné limitée à moi toute seule, effectivement, je pense que j'en viendrai à prendre des cours. Et...
Là, vous exposez, donc on l'a dit, jusqu'au 30 octobre au passage de l'ancienne mairie. Vous avez fait un choix pour l'exposition. Est-ce que vous avez créé quelque chose, un voyage quand on se balade dans la galerie entre les tableaux?
Alors, on est déjà deux artistes, donc il y a deux univers dans deux pièces différentes. Et on a toutes les deux essayé de faire ce travail, de regrouper nos œuvres en fonction du cheminement qu'il y a eu derrière. Et moi, effectivement, j'ai des séries qui sont plus vaporeuses, qui ne fonctionnent pas avec ce système de touches. Donc, il y a toute une partie qui est dédiée à ça. Et puis après, il y a mon travail actuel qui est dans une seconde partie. Mais on voit effectivement un peu le cheminement qu'il y a derrière, oui.
Il y a deux choses. Alors, il y a vos premières œuvres et votre travail actuel. Il y a deux univers différents que vous avez explorés.
Oui, initialement, je fonctionnais vraiment sur des fondus enchaînés, des couleurs qui étaient très plus douces. Et là, c'est vrai que je mets beaucoup plus de couleurs vives. Je viens sur des formes qui sont un peu plus, avec ce système d'origami, là, un peu plus tranchantes. Donc oui, au fur et à mesure, il y a un style qui évolue, je pense.
Et vous exposez avec donc Maud Chapuis, qui a un tout autre style et qui fait du paper art. Qu'est-ce que c'est donc que ceci ?
Alors, le paper art, c'est une découpe au scalpel. C'est un travail très, très minutieux et le résultat ressemble un peu à de la dentelle.
Ouais.
Et c'est une découpe de différentes couches de papier coloré qu'elle assemble, qu'elle superpose. Des fois, il y a une couche unique et qu'elle met soit sur un fond d'aquarelle qu'elle a créé, soit entre deux plaques de verre pour vraiment qu'on puisse voir ce travail un peu dentelé. Et c'est un travail qui est très, très minutieux et le rendu est assez surprenant.
Surprenant, effectivement. Et j'ai pu voir des images sur Internet, mais je serais curieux de voir en vrai, parce que sur Internet, on n'a pas la... l'épaisseur, et je me demande à quoi ça ressemble.
Eh bien, il faut venir voir ça à la galerie.
Exactement. Comment est-ce que... Pourquoi est-ce que vous exposez toutes les deux ensemble ? Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu travailler ensemble, collaborer ?
Avec Maud, on s'est rencontrés via l'Office culturel de la ville. On a commencé à faire les marchés de la création Place des Arts ensemble. Et on s'est trouvé un feeling en tant qu'individu. Et puis c'est vrai que dans ce qu'on fait, on retrouve le monde animalier que Maud explore beaucoup. Et on a des choses toutes les deux qui sont très colorées. Donc c'est de manière assez naturelle en fait qu'on s'est dit que faire une exposition ensemble, ça paraissait cohérent.
Ouais. Le fait de pouvoir travailler avec d'autres artistes comme ça, vous qui commencez depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est stimulant aussi d'être... pas confronté, mais de voir le travail d'autrui, etc.
Bah, c'est toujours intéressant de découvrir le travail des autres, c'est sûr. Et puis, la Place des Arts, c'est vrai qu'on est un groupe où il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de discussions et où on a facilement aussi des critiques qui vont être formulées de manière très bienveillante et qui vont permettre éventuellement de faire évoluer ce qu'on fait, oui. Mmh. Donc, c'est très enrichissant.
Place des Arts, le rendez-vous, c'est une semaine sur deux
C'est tout les deuxièmes dimanches du mois. Ouais. Et là, avec le froid, parce que l'Office culturel prend soin de ses artistes, on va passer à l'étage supérieur de la halle couverte.
Ouais, du marché, voilà. Vous êtes à l'étage.
Dans le marché couvert, deuxième dimanche du mois.
Très bien. Et il y a d'autres actions avec l'OCV. Je crois que vous avez aussi été dans les magasins pour exposer.
Oui.
Et vous pouvez nous parler, ça continue ça, cette expérience ?
Oui, c'est encore en cours. Initialement, ça s'est construit ça pendant le confinement. On n'avait plus de lieu d'exposition. Et Christine Forgette de l'Office culturel, avec son dynamisme et son entrain habituel, a demandé aux commerçants de prêter leurs murs pour que des artistes émergents puissent venir montrer leur travail. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, il y a une quinzaine d'artistes dans une vingtaine de commerces rue Nationale. Il y a tout un parcours à découvrir. Et ça, c'est quelque chose qui a encore lieu aujourd'hui. Et la toute première boutique qui s'est lancée quand même, c'est Flamingo Travel. Et c'est Sylvie qui travaille là-bas, qui a pris l'initiative de ça. Et je leur remercie beaucoup. Et j'ai des toiles encore là-bas aujourd'hui. Et c'est une belle expérience et un bel échange.
Donc, si on se balade dans Villefranche, dans les boutiques, on peut
voir de l'art.
Voir de l'art et pourquoi pas vos œuvres à vous. Très bien, donc le rendez-vous là pour le moment c'est au passage de l'ancienne mairie. Il y a un vernissage ce vendredi
à partir de 18h, tout à fait,
pour pouvoir venir vous rencontrer et vous voir
avec plaisir
présenter vos œuvres. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre travail et,
merci à vous
et de ce beau rendez-vous. À très bientôt.
Merci, au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, on va rester dans la thématique de la mer et de l'océan avec M.
Pacifique.
Océan de M, extrait de son album Il.
Oui.
Bonjour, on voudrait voir votre mâle dominant.
Il est là-bas.
Ils sont à vous, coach.
Ensemble sur Calade. Le coach.
Oui, il est l'heure de retrouver le coach tout de suite. Bonjour, coach.
Salut, gamin.
Vous allez bien?
Ben écoute, ça va bien, comme d'hab.
Bon, tant mieux, il fait beau, ça fait du bien. Alors, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vais parler d'un truc que t'aimes bien, gamin.
Ah.
On va reparler de biais cognitifs. Je sais que ça te fait kiffer, ce genre de truc.
Ah, mais je me sens très intelligent quand je parle de biais cognitifs, alors j'aime bien, ouais.
Et puis aujourd'hui, on va se faire un petit biais cognitif qui est quand même filou, à la limite du foireux, hein, et qui risque de nous jouer des tours dans les semaines et les mois à venir.
Très bien.
D'autant plus que des politiques et des journalistes, eux aussi un peu filous à la limite du foireux, en usent et en abusent parfois à outrance. Si tu veux, gamin, c'est le genre de biais cognitif qui te met le doute et qui est très précieux pour insinuer des trucs vaches.
Ah.
Le principe, il est simple. C'est de poser une question qui, par l'effet psychologique du biais d'affirmation, va être retenue comme une affirmation par le cerveau.
Oula, c'est-à-dire?
Pour éclairer mon propos, je m'en vais vous donner un exemple. C'est le genre de question que l'on trouve souvent dans les médias. Je donne deux exemples. Le gouvernement français a-t-il fait pression sur l'entreprise XY? Ou bien la question suivante, le Covid est-il vraiment responsable de l'augmentation de la mortalité en 2020? Alors vous conviendrez que c'est le genre de phrase, de question que l'on rencontre quotidiennement dans les médias. Mmh. Eh bien, le biais d'affirmation, c'est quand notre cerveau transforme une phrase interrogative en phrase affirmative. C'est quand on entend une question, mais que dans notre caboche, ça se transforme en affirmation. Alors au départ, je dois t'avouer, gamin, que je pensais que c'était un peu de la faute de nos grands-mères, ce truc-là.
C'est-à-dire?
Tu sais, gamin, quand elle te demande, ta grand-mère, tu reveux du poulet et de la purée?
Ah bah, oui, forcément, on n'a pas le droit de dire
non. Même si ça ressemble à une question, bah, c'est pas une question. Oui. Elle t'affirme juste qu'elle va te resservir et qu'il t'est conseillé de faire sauter le bouton de ton pantalon parce qu'elle va te faire exactement le même coup avec la tarte aux pommes façon normande.
C'est vrai.
Mais en réalité, après avoir étudié la question, gamin, je dois avouer et reconnaître que c'est pas la faute de nos mémés.
Bah non, les pauvres.
Eh ben non, il y a deux psychologues, Mario Pandaler et Siegfried de Witt. Ça doit pas être facile à porter comme nom quand même, Siegfried. Hein. Ça fait quand même un peu guerrier teuton comme ça à l'époque. Ça fait wagnérien un peu comme truc. Hein.
C'est vrai.
Donc ces deux psychologues, hein, Mario Pandaler et Siegfried de Witt, ils ont mené une expérience qui a permis de mettre à jour ce biais d'affirmation. Ils ont distribué des phrases formulées sous forme de questions et sous forme affirmative à des volontaires. Les questions portaient sur des sujets mathématiques et biologiques. Après avoir lu les phrases, dans une deuxième phase, les volontaires devaient répondre à un questionnaire où chacune des phrases était proposée sous les deux formes, c'est-à-dire affirmative et interrogative. Et ils devaient indiquer sous quelle forme ils avaient lu la phrase dans la première partie de l'expérience. Eh bien, la majorité des phrases qui étaient sous forme interrogative ont été perçues comme étant sous forme affirmative dans la seconde partie de l'expérience. Pour ces personnes, la question était devenue une affirmation. Mmh. Alors, nos deux psychologues, là, dont les noms sont trop difficiles à répéter, ils ont trouvé le mécanisme à l'œuvre dans le biais d'affirmation. Et comme je le disais, il n'est pas question d'une mauvaise habitude qu'on aurait pris avec nos mémés. Pour comprendre une question, notre cerveau, il se crée une représentation mentale de cette question. Et par exemple, quand j'entends la question « Le gouvernement a-t-il fait pression sur l'entreprise XY ?» Eh bien, j'imagine une scène. Alors, chacun imagine sa propre scène. Hein, mais en gros, on imagine une scène où se matérialise l'action. Tu vois, on imagine, je sais pas moi, un ministre prendre le téléphone et faire pression. Mmh. On imagine des trucs, quoi. Et le fait d'avoir imaginé cette scène, de se l'être représenté, eh bien, ça a pour effet que pour nous, elle devient possible et même réelle. Et c'est comme cela qu'une question se transforme en affirmation dans notre caboche. Alors nos deux amis, ils ont poussé l'expérience un peu plus loin et ils ont montré que le biais d'affirmation est d'autant plus fort que la question est simple. Et oui, c'est compréhensible, il est plus facile de se représenter des choses simples que des choses complexes, de les imaginer en tout cas. Donc plus une question est complexe, plus on va garder ça sous forme de question, on va moins transformer ça en affirmation. Mais plus la question est simple, eh bien plus on va avoir l'impression qu'il s'agit d'une affirmation. Alors ce biais d'affirmation, il faut le connaître pour comprendre comment il peut alimenter les théories du complot. Il faut le reconnaître aussi quand il est utilisé à des fins de manipulation complotiste ou de manipulation politique. On comprend mieux que poser une question, eh bien ça n'est jamais anodin. D'ailleurs, les politiques ont bien connaissance de cela. Parce que lorsqu'ils font face à une question orientée et directe qui pourrait rapidement devenir une affirmation dans l'esprit des gens, ils se montrent généralement en opposition avec la personne qui pose la question. Ainsi, par exemple, un député de la majorité ne peut pas laisser passer une question comme « Emmanuel Macron est-il le président des riches ?» Il sait que dans l'esprit du public, cette question va devenir une affirmation. « Macron est le président des riches ?» Et lorsqu'ils font remarquer à la personne qui interviewe que cette question elle est un peu licencieuse ou que c'est une question qui ressemble à une affirmation, souvent l'intervieweuse ou l'intervieweur répond « Ah, mais moi je ne fais que poser la question ». Alors moi je vous invite vraiment à débusquer l'utilisation frauduleuse de ce principe par celles et ceux qui ne font que poser des questions d'une façon très facile et qui finalement ne font rien d'autre que d'affirmer des choses sans en avoir l'air. D'ailleurs, les cellules de vérification, vous savez, il y a de nombreux journaux et médias qui ont des cellules de vérification d'informations, de fact-checking. Alors, il y a les décodex du Monde, le fact-checking sur France Info, pour n'en citer que deux. Eh bien, ces cellules de vérification de l'information, ils ont bien compris ce système. Eh bien, souvent, l'accroche de leurs articles n'est jamais la question qu'ils vont aller vérifier. Ils n'écrivent jamais dans leur article « Macron a-t-il vraiment dit qu'il détestait le Beaujolais ?» Ils choisissent une forme affirmative sans équivoque, comme du genre « Non, Macron n'a jamais dit qu'il déteste le Beaujolais ».
Eh oui.
C'est une façon comme ça d'éviter de se tirer une balle dans le pied, parce que quand tu veux décoder l'information et faire du fact-checking, ce serait quand même dommage qu'en posant une question, tu balances une nouvelle affirmation.
Effectivement.
Alors, mes petits poussins, pour conclure… Je dirais que poser une question peut être parfois la meilleure façon de lancer une rumeur. Il faut donc se méfier de ce biais d'affirmation et savoir le reconnaître quand il est utilisé à des fins malveillantes.
Merci beaucoup, coach, pour ces conseils. Faut faire attention à tout ce qu'on entend, j'ai l'impression, c'est de plus en plus compliqué.
Alors, il faut pas faire attention à tout, bien sûr. Mais il faut avoir en tête que quand on entend des choses, des questions, on a tendance à les transformer en affirmations. Et que c'est parfois ce qui est à l'œuvre dans les mécanismes complotistes ou alors quand on veut insinuer des choses. Ouais. Et c'est bien d'être toujours vigilant pour ne pas se faire avoir, tout simplement, pour garder quelque part un peu... C'est pour organiser son autodéfense intellectuelle.
Très bien. Merci beaucoup, coach. En tout cas, on se dit à très bientôt sur Khaled.
À la semaine prochaine, mes petits piou-piou.
À bientôt, ciao, ciao.
Ensemble sur Khaled.
Bon, on est des piou-piou maintenant, non mais... bon, en tout cas, c'est compliqué, il faut faire attention à beaucoup de choses. Ça fatigue, tata, c'est ce que nous chante Photo Game, tata fatigué. Yeah. Sur Kelad, un groupe lyonnais, avec le titre Tata Fatigué.
Ensemble sur Kelad.
Et bon, mais c'est un bon bouquin, je veux dire, c'est sérieux.
L'humeur littéraire du libraire.
Et alors, il est de quelle humeur, notre libraire? Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et ben, je suis d'humeur badine.
Badine? Qu'est-ce que ça veut dire?
Au bon doigt d'une humeur, voilà, ça va. En fait, ça va bien.
Très bien. Voilà. Bon. Et alors, de quoi allez-vous nous parler avec cette humeur?
Alors aujourd'hui, je me dis que nous pourrions enfin aborder, parce que je pense que ça doit bien faire quelques semaines que nous n'avons pas abordé les romans graphiques.
C'est vrai.
Eh oui, de temps en temps, ça fait du bien de se replonger dans la BD, dans du roman graphique. Et aujourd'hui, je vais en proposer quatre coups de cœur qui nous ont en cette rentrée bien accrochés. Alors, on va commencer tout de suite, partons dans le vif du sujet, avec Étienne Davodeau. Alors Étienne Davodeau, c'est quelqu'un qui a toujours un peu une place particulière dans ce monde du roman graphique, parce qu'il a vraiment fait des objets absolument exceptionnels. Pour beaucoup, ça correspond aux ignorants, donc était cette rencontre entre un viticulteur et effectivement un dessinateur, qui n'était ni plus ni moins qu'Étienne Davodeau. Et ça avait beaucoup marqué à l'époque. Et là, alors il entreprend un nouveau périple, parce qu'il a décidé de rejoindre un lieu où il y avait des peintures rupestres, qui datent de quelques dizaines de milliers d'années.
D'accord.
Donc voilà, on va dire la trace des hommes au moment de la préhistoire. Donc c'est dans le Lot, à Pechmerle.
D'accord.
Et il a décidé de relier à pied ce territoire de Pechmerle dans l'Aude, première trace quelque part des hommes, pour rejoindre Bure dans la Meuse, donc à 800 km, et Bure c'est là où on devrait enfouir des déchets nucléaires. Autre trace de l'homme.
Ouais.
Et comment l'homme a pu marquer le territoire, en bien ou en mal, bien évidemment. Et donc on va le suivre comme ça, on est en 2019, été 2019, comment on va le suivre sur 800 km, donc quelques semaines, autant dire, où il va pas mal crapahuter. Et c'est l'occasion de rencontrer des hommes et des femmes qui sont investis évidemment dans l'environnement, qui sont investis pour le bien-être de la Terre, parce qu'il va être vraiment question, le titre s'appelle Le droit du sol, de vraiment, quel est ce sol, qu'est-ce qu'on en fait, et est-ce que au final les êtres humains que nous sommes n'ont pas tendance un peu à ignorer le sol sur lequel on marche, mais aussi sur ce sol qui nous fait vivre. C'est une très très belle BD, donc évidemment le scénario est absolument parfait comme d'habitude, et on se plonge dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que alors, certains romans graphiques, on peut aller très vite, et là, en fait, plus on le lit, plus on avance, plus on va doucement. Un petit peu comme lui en tant que marcheur.
D'accord.
Et donc c'est un roman graphique à lire, à prendre le temps de lire, à évidemment à relire, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, c'est très dense, c'est très bien documenté. Et vraiment voilà, c'est le roman graphique que l'on recommande très fortement, Le droit du sol d'Étienne Davodeau.
Très bien.
Et c'est chez Futuropolis, toujours très très bonne maison d'édition, bien évidemment. Alors après, complètement différent. Alors aux éditions Casterman. Alors les éditions Casterman ont toute une collection autour de personnages, féminins. Oui, principalement féminin. On a eu sur Joséphine Baker, on a eu sur L'âme de Gouge, et c'est de faire passer par le roman graphique, qui est presque même plus de la BD là, la vie d'un personnage. Et là, on a été, mes collègues et moi, très très touchés par le personnage d'Alice Guy. Alice Guy, donc c'est Catel et Bocquet qui font ça. Alors évidemment, tout de suite, Mathieu, tu vas me dire, mais qui est Alice Guy ?
Eh ben oui, parce que j'en ai aucune idée.
Eh ben moi non plus, j'en avais aucune idée.
D'accord.
Et en fait, Alice Guy est un personnage complètement fascinant. En fait, elle est ni plus ni moins la première réalisatrice de cinéma français.
Ah oui.
Elle a vécu entre le 19e et le 20e siècle. Tout le monde l'a oublié, hein, soyons bien clairs. Hein.
Oui.
On la redécouvre un petit peu. Hein. Alors, on l'a oublié, bien sûr, parce que c'était une femme. Hein. Et qu'elle a été... Alors, elle vient d'une famille qui était à la base assez riche, revers de fortune. Et quand elle a une vingtaine d'années, elle est embauchée par Monsieur Gaumont. Mais d'abord, comme simple femme à tout faire. Et puis, progressivement, elle va prendre de l'importance. Et Monsieur Gaumont était évidemment là au moment où les Lumières ont fait leur premier film, hein, L'arroseur arrosé. Et elle va très vite se lancer dedans et faire ses premiers films. On estime presque tout a été perdu de sa réalisation. Mais on estime qu'en une vingtaine d'années, elle a fait à peu près une centaine de films. Alors en France, et puis très vite, elle va partir aux États-Unis où elle va être aussi réalisatrice. Malheureusement, elle décède dans les années 20 où Hollywood a pris le relais et elle est tombée complètement dans l'oubli. Et j'ai trouvé ça assez génial, par le biais donc de cette BD roman graphique, de se plonger dans l'histoire de cette femme, qui a été encore une fois une réalisatrice qui s'inscrit aujourd'hui un peu dans ce mouvement féministe, dans le sens où toutes ces femmes qu'on a mis un peu de côté en disant c'est pas un homme, ouais. C'est pas Monsieur Gaumont, c'est pas Monsieur Lumière, donc pas vraiment intéressant. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle a fait partie aussi des pionniers. Et en l'occurrence, des pionnières du cinéma français et international. Ouais. Donc, très très belle découverte que Alice Guy, G-U-Y, première réalisatrice française.
Très bien, un peu dans la veine de culottée de Pénélope Bagieu.
Alors, un petit peu, tout à fait. Je n'ai même pas regardé, il faudrait peut-être même regarder si Pénélope Bagieu dans les culottées, il est question d'Alice Guy. J'ai un doute. Mais effectivement, je regarderai. Ouais.
Très bien.
Puisqu'on reste dans un monde féminin, je voulais juste quand même citer la très belle BD chez Stenkis. Sur Georgia O'Keeffe. Alors Georgia O'Keeffe, en fait, c'est une peintre, hein, peintre qui a vécu au XXe siècle, qu'on connaît un petit peu, mais pas trop, qu'on redécouvre vraiment en France grâce à l'expo qui a lieu en ce moment au Centre Pompidou. Qui est une très belle expo sur cette peintre. Alors une peintre peinte de la couleur, elle est américaine, et elle a beaucoup vécu dans le désert du Nouveau-Mexique. Et du coup, cette couleur du désert, cet univers évidemment très minéral, très minimaliste qu'est le désert, elle a réussi à le retranscrire de manière très forte, très belle. Pareil, on est un peu dans cette femme qui, pendant très longtemps, a été à l'ombre ou sous l'ombre, quelque part, son mari qui était un marchand d'art. Et elle va réussir, presque une fois décédée, elle va réussir à s'émanciper et à devenir cette femme qui restait très simple, qui a toujours vécu dans sa petite maison du Nouveau-Mexique, mais dont Laura va prendre une place de plus en plus forte dans cette peinture américaine du XXe siècle pour aujourd'hui être l'une des grandes voix et des grandes porte-paroles de la peinture américaine, féminine ou pas, mais en tout cas de cet âge d'or de la peinture américaine qui est le XXe siècle. Donc voilà, Georgia O'Keeffe, c'est chez Steinkiss, et ça mérite de regarder un petit peu, si vous ne connaissez pas Georgia O'Keeffe, de regarder qui est cette femme.
Ouais.
Très très beau.
Très bien.
Et puis pour terminer, alors chez 2024, un roman graphique qui est que j'ai trouvé très très puissant pour le graphisme et pour l'histoire. Le titre c'est Des Vivants et c'est de Raphaël Meltz, Louise Moati et Simon Roussin. Et ils reviennent à travers. J'insiste sur le graphisme parce que vraiment le graphisme est très 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 bien. Pour évoquer le groupe de résistants du musée de l'Homme à Paris. En fait, en 1940, ce musée de l'Homme à Paris, spécialisé autour de l'anthropologie, grand musée français de l'époque, et les personnes qui travaillent dans ce musée vont être parmi les premiers à créer un groupe de résistants. Face évidemment en 40 à l'envahisseur nazi. Et donc tout ça est évidemment évoqué au fur et à mesure de la chronologie dramatique de cette période. Et on suit ces personnages, alors j'en cite quand même quelques-uns de personnages. Il y a Boris Vildé, il y a Anatole Lewitsky, il y a Yvonne Audin. Qui vont être un peu les personnages centraux, mais il y en a beaucoup d'autres autour, à commencer par le conservateur Paul Rivet. Et on les suit comme ça sur jusqu'à une issue fatale, qui est bien sûr l'arrestation, la déportation, voire la mort pour certains. Par exemple, quelqu'un comme Germaine Tillon, très grand anthropologue, a fait partie de ce mouvement. Et je trouve toujours que c'est assez puissant de passer par un roman graphique pour évoquer. Alors, on parlait de Alice Guy, d'un point de vue historique, d'évoquer un fait historique, une période historique aussi dramatique, par exemple, qui a été cette période de 40. Et on avait peu fait, effectivement, de romans graphiques, je crois même d'ailleurs c'est le premier, à ma connaissance, justement sur ce groupe du Musée de l'Homme, qui a été un groupe qui a vraiment été le fer de lance de la résistance en France, dans cette France qu'on espérait libre, et c'est très très bien fait, très très bien fait. Et à la fin, vous avez aussi toute une explication sur, sur les différents protagonistes de ce groupe de résistance. Donc voilà, quatre romans graphiques au BD qui nous ont fortement marqués en ce mois d'octobre, mais évidemment avec une petite préférence pour Étienne Davodeau, qu'on trouve un illustrateur, mais pas qu'illustrateur, loin de là, mais qui a un vrai génie.
Et quatre romans graphiques sérieux, parce que c'est pas parce qu'il y a des images que c'est pas sérieux. Et
Alors oui, c'est assez sérieux, c'est aussi le dessin qui nous emmène parfois très très loin, ou en tout cas qui nous fait aussi réfléchir. À vous de jouer.
À nous de les découvrir. Merci beaucoup, Bertrand. À très bientôt.
Et bonne journée à tous. À très bientôt.
Allez, c'est la fin d'Ensemble sur Calade. Demain, ciao.
Ensemble sur Calade.